Voilà, alors j'aimerais aborder ce soir un sujet d'actualité écuménique d'ailleurs, puisque c'était l'objet d'un rassemblement et d'un rapprochement à Rome, le synode des évêques sur la parole de Dieu. Vous savez que Benoît XVI avait convoqué un petit peu des évêques du monde entier pour venir réfléchir un petit peu sur le sens de la parole de Dieu aujourd'hui, pour voir un petit peu comment cette parole peut nous parler, peut nous rejoindre, comment aussi l'annoncer de manière commune entre tous les chrétiens. Cette parole montre qu'on a tant besoin. Dans le prophète Amos, il y a cette phrase où le Seigneur dit: il arrivera un temps où je répandrai sur mon peuple une faim et une soif, non pas une faim de pain, non pas une soif d'eau, mais une faim et une soif d'entendre la parole de Dieu, et les gens iront titubant d'un fleuve à l'autre, d'une mer à l'autre, et ne trouveront pas. Et je crois que c'est un petit peu ce qu'on vit aujourd'hui finalement, hein. Les gens titubent comme ça d'un côté à l'autre, cherchant désespérément quelque chose qui puisse répondre à la soif du cœur de l'homme, et puis on trouve pas cette réponse. Alors, j'aimerais juste reprendre peut-être deux textes, enfin, trois textes, et ensuite on va approfondir un petit peu les choses. Le premier, c'est justement l'homélie de Benoît XVI au début du synode des évêques, et puis une réflexion qu'il a proposée aux évêques aussi au moment où ils se sont réunis pour leurs travaux, et puis ensuite le document qui vient de sortir hier, qui s'avère un petit peu de trame à ce que je vais vous dire ce soir, document qui est sorti, qui est le message des pères du synode à tous ceux qui veulent bien entendre autour de la parole de Dieu. Alors, je ne vais pas tout prendre, mais juste quelques phrases comme ça qui me paraissent très, très intéressantes. Il parlait, c'était l'évangile de la vigne, des vignerons qui finalement veulent s'approprier la vigne. Alors, ils cassent la figure à plusieurs envoyés du propriétaire de la vigne. Et puis finalement, le propriétaire se dit: j'ai envoyé mon fils. Il est naïf, hein, le pauvre. Il dit: j'enverrai mon fils, comme ça, au moins, lui, ils le respecteront. Pour ça, ils ont cassé la figure à tous les autres. Et eux se disent: le fils, ben, c'est lui l'héritier, tuons-le, comme ça, on va la vigne. Alors, à partir de cette réflexion-là, très, très brièvement, il dit: mais finalement, bon, bien sûr, il s'agit de l'enjeu, l'enjeu s'aggrave, voyez-vous. Au début, il s'agit simplement de serviteurs qui sont là et on se fâche avec eux et ça fait un peu mal. Et puis à la fin, c'est vraiment le rejet du maître à travers le fils. Hein, il y a un rejet catégorique, un rejet de Dieu. Et là apparaît derrière cette violence déchaînée contre le fils du propriétaire de la vigne, eh bien, apparaît le visage de la croix, bien sûr, du Christ crucifié. C'est cette phrase-là qui me paraît importante et qui correspond un petit peu à l'enjeu du temps. Si nous regardons l'histoire, nous sommes obligés de noter assez fréquemment la froideur et la rébellion de chrétiens incohérents. Ah, ça, c'est la réflexion qu'il fait. Hein. Il en tire une conclusion, il dit pas: c'est les païens, ils sont quand même terribles, les païens. Hein. Oh là là, ils sont méchants. Hein, c'est la rébellion des chrétiens incohérents. Suite à cela, Dieu même, s'il ne manque jamais à sa promesse de salut, a souvent dû recourir au châtiment. On pense spontanément dans ce contexte à la première annonce de l'Évangile, de laquelle surgiront des communautés chrétiennes d'abord florissantes, qui ont ensuite disparu et ne sont plus rappelées aujourd'hui que dans des livres d'histoire. Donc il y a des communautés florissantes qui étaient là, dans toute l'Afrique du Nord, et on s'en souvient parce que dans un livre d'histoire, on vous raconte qu'à un moment donné, Augustin était évêque d'Hippone, et puis Hippone était quelque part en Afrique du Nord, et si vous cherchez Hippone sur la carte aujourd'hui, ben, vous n'avez plus de nom et plus de réalité chrétienne dans cette région-là. Hein, et donc, il y a une sorte de communautés extraordinaires qui ont disparu complètement de la surface de la terre, en tout cas en tant que réalité chrétienne, parce que quelque chose s'est passé, c'était la trahison de l'Évangile à un moment donné. Et alors, il va un peu plus loin, ça c'est l'histoire, hein, on dit dans des livres d'histoire quelque chose. Et puis, ne pourrait-il pas en advenir de même à notre époque? Des nations, un temps riches de foi et de vocation, perdent désormais leur identité propre sous l'influence délétère et destructive d'une certaine culture moderne. On y trouve celui qui, ayant décidé que Dieu est mort, se déclare Dieu lui-même et se considère le seul artisan de son propre destin, le propriétaire absolu du monde. En se débarrassant de Dieu et en n'attendant plus de lui son salut, l'homme croit pouvoir faire ce qui lui plaît et se présenter comme seule mesure de lui-même et de sa propre action. Mais quand l'homme élimine Dieu de son propre horizon, qu'il déclare Dieu mort, est-il vraiment plus heureux? Devient-il vraiment plus libre? Quand les hommes se proclament propriétaires absolus d'eux-mêmes et uniques maîtres de la création, peuvent-ils vraiment construire une société où règne la liberté, la justice et la paix? N'arrive-t-il pas plutôt, comme nous le démontre amplement la chronique quotidienne,